Ezoterisme experimental. Avec Richard Glenn. Bonjour, bienvenue à cette 12e émission de la série, ici sur Radio Mieux-Être 1570 AM. Nous rencontrons un juif, spécialiste de l'enseignement ésotérique le plus pur dans la tradition juive, qu'on appelle la Kabbale. Il s'agit de A.D. Grad. Nous allons aborder avec lui le phénomène extraterrestre. Et pour lui, ce n'est pas seulement qu'un phénomène, c'est une réalité.
Oui, vous savez, si on pouvait définir la réalité, qu'est-ce que le réel ? C'est là le grand problème. Il tira le tout à partir du réel. Si vous prenez le mot originel, qui est le mot mamash, par exemple, qui est dans le Sefer Yetzirah, il est évident que le réel n'est pas du tout ce qu'un fin peuple pense. C'est-à-dire que les gens croient réel une table, ce qu'on appelle la matière, disons ordinairement. Or, on sait très bien aujourd'hui, les scientifiques, au moins les chercheurs de pointe qui travaillent avec nous, savent très bien que la matière n'existe pas, qu'on n'arrive pas à définir la quintessence de ce qu'on appelle la matière. Avant, on parlait de l'atome, qui en principe était insécable, d'après sa définition, atomos. L'atome est devenu sécable. On nous a enseigné d'abord que c'était tout un véritable système solaire, que les électrons tournaient, et ceci et cela, et les neutrons et les positrons et tout. Et puis, on s'est aperçu, finalement, dans les laboratoires, que derrière tout cela, il y avait autre chose, qui n'était pas de la matière. On appelait ça le quark, certains disent le quart, paraît que c'est très bien, mais enfin, le quark, c'était quelque chose, le quark, qui était à la base de la matière, mais qu'on ne pouvait pas discerner, parce qu'on ne savait ni où il se trouvait, ni les accélérations, la vitesse de passage. Et puis, non seulement on s'est aperçu qu'il y avait cette petite chose impalpable, ineffable, mais que cette petite chose, il y en avait plusieurs. Il y en avait quatre, et on croit qu'il y en a trois séries de quatre, ce qui ferait une douzaine, et il paraît qu'il y en a 16. Alors, c'est pas très clair, tout ça. Je parle du point de vue scientifique. Scientifique officiel, bien sûr. Si on envisage le réel, c'est-à-dire dans les trois dimensions, dans l'immédiateté où se meuvent les hommes, le réel n'est pas ce que l'on croit, ce que l'on pense, c'est pas ce que tout le monde pense. Ce qui paraît irréel, c'est quelque chose qui, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas perçu. Mais est-ce que les couleurs, par exemple, au-delà du spectre, sont irréelles ? Non, nous ne percevons qu'une gamme de couleurs, de l'infrarouge à l'ultraviolet, parce que nos sens sont limités. Les sons, on n'entend pas les ultrasons, il y en a qu'on ne supporte pas, le mille périodes, par exemple, on ne le supporterait pas, s'il se prolongeait trop. Nos sens étant limités, il faut bien s'entendre sur le mot « réalité ». Alors, un phénomène qui est dit n'appartenant pas, je dirais, à notre univers, bon, admettons qu'il appartienne à un autre univers, ce que moi j'appelle quelquefois dans mon langage un anti-univers. C'est-à-dire, il y a des particules, et toute particule implique l'existence d'une antiparticule.
Qui s'oppose.
Qui s'oppose, mais je dirais qui s'oppose tout en complétant. C'est-à-dire que nous-mêmes, par exemple, tels que nous sommes là, nous avons nos deux images en ce moment, qui sont dans cet anti-univers, peut-être inversées, c'est-à-dire que notre positivité est négative dans cet anti-univers, et réciproquement. Mais nous nous maintenons tous les deux dans l'état terrestre que parce qu'il y a l'équilibre de la balance, ce qu'on appelle en Kabbale l'équilibre de la balance. Quand vous avez deux plateaux sur une balance, s'il n'y a rien sur les deux plateaux, elle est maintenue à l'horizontale. Si vous mettez un poids sur une et rien sur l'autre, il y a un poids qui va baisser. Ici, quand je déplace ma main gauche, supposons, dans cet anti-univers, il y a une main en face qui fait ça. Mais attention, ce n'est pas le miroir, ce n'est pas une image virtuelle, c'est quelque chose d'effectif. C'est-à-dire que si moi, je voulais rencontrer n'importe quelle personne, il ne s'agit pas du kabbalisme là, particulièrement, n'importe quel individu, Thérèse, voudrait rencontrer de l'autre côté de cette frontière impalpable pour l'instant, mais on pourra peut-être en parler si vous le voulez bien, si je veux tendre la main à la propre main de mon double qui est là-bas, eh ben, nous allons être atomisés. La rencontre d'un phénomène de l'univers, du cosmos dans lequel nous nous mouvons, avec la réciprocité dans un anti-univers, ferait explosion.
En ésotérisme, on parle de la fusion avec son double, est-ce que c'est
possible? Non, alors là, attention, je vous mets en garde, et je vous mets d'autant plus en garde qu'on est en pleine période de confusion. Je cours le monde, je peux vous assurer qu'il y a une confusion effroyable, et chaque jour me donne de plus en plus raison. Il faut mettre les choses au clair dès le départ. Il ne faut pas écouter des tas de gens qui sifflent dans un cornet. Il faut savoir qu'il y a des choses solides. Est-ce que ça tient debout ou ça tient pas debout? Il faut savoir si on a mis un wagon sur les rails ou si on l'a mis sur une voie de garage. Si vous mettez bien le wagon sur les rails, vous constatez que toute particule, je parle pour les scientifiques, là je m'excuse d'employer ce mot, mais enfin c'est à eux ce mot particule, toute particule implique une antiparticule. De la même manière, ce que je disais à propos de l'individu sur la Terre implique un autre grade, par exemple, de l'autre côté. Quand je dis grade, je ne parle pas d'un grade, hein, je parle d'un antigrade, qui serait de l'autre côté, avec qui je suis en communication permanente, mais attention, sans possibilité de fusion. Mmh. Attention. C'est-à-dire que si on prend un point suprême, une source lumineuse, deux rayons partout, l'un vers l'univers, l'autre vers l'anti-univers, les deux rayons sont toujours appartiennent à la même source. Mais ils ne peuvent pas fusionner en bas. Ils ne peuvent pas fusionner en bas. Ils peuvent remonter à la même source. Il faut donc, ici même, se préparer à un état supérieur de conscience qui n'est pas donné à tout le monde. Attention, ce n'était pas n'importe quoi. Ce n'est pas de la méditation dans le vide. C'est extrêmement sérieux. Si vous voulez atteindre un degré supérieur de conscience, vous avez une possibilité d'ouverture vers un horizon qu'on pourrait appeler en science, par exemple, l'horizon des trous noirs, par exemple. Bon, le trou noir où tout se résorbe, mais où tout se résorbe vers quoi, dans quelle direction et vers où? Peut-être vers cet anti-univers. Peut-être sommes-nous à l'intérieur, d'ailleurs, nous-mêmes ici, d'un trou noir, et nous sommes à la périphérie du trou noir. Donc, si de l'autre côté, de ce que j'appellerais, j'ose pas dire le miroir, parce que je crains que le téléspectateur ne suppose que je pense à une image de nous virtuelle, comme si on se regardait dans un miroir. C'est pas ça du tout. C'est autre chose qui existe parfaitement, et si j'avais le malheur de sortir du plan, dans un état supérieur de conscience, bien sûr, mais du plan tout de même cosmique que nous habitons, il arriverait comme Vivekananda, qui était le disciple de Ramakrishna, qui à l'âge, je crois, de 40 ou 45 ans maximum, s'est trouvé en état de samadhi, par exemple, et le cordon ombilical qui le reliait à l'autre Vivekananda dans l'anti-univers s'est rompu. Donc la corde d'argent, si vous voulez, a craqué. À ce moment-là, il est foudroyé. Mais attention, il est foudroyé, de l'autre côté, quelque chose aussi est foudroyé. Mais ce qui subsiste des deux remonte à l'origine.
Ils ont été foudroyés et ils sont disparus en lumière?
Voilà. Et ils reviennent, nous sommes lumière. Vous savez, l'axiome kabbalistique que j'ai dit plusieurs fois au Québec, pour nous, nous partons du principe que nous imaginons que nous sommes lumière et que tout ce qui nous entoure est lumière. Mon ennemi est lumière, si ennemi j'ai. Et pas, moi je n'ai pas d'ennemis. Enfin, si les gens veulent être mes ennemis, c'est leur problème, c'est pas le mien.
Alors, le problème des extraterrestres dans tout ça.
Alors, je donne ça pour le relier au problème. Vous ne pouvez pas comprendre le problème, par exemple, ce qu'on appelle les platillos voladores, les soucoupes volantes. On ne peut pas comprendre ce problème si on n'a pas posé ça avant. Si on ne comprend pas ça, on se dit, mais c'est quand même curieux, qu'est-ce que c'est que cette apparition? D'un coup, il y a des tas de témoignages, par exemple, et gens qui disent, oui, mais ça, je ne suis pas fou, j'ai vu quoi? Alors, j'ai vu se produire un phénomène qui ne relève pas, qui peut être, ne pas être détecté, par exemple, par les radars, qui peut être ressenti par certains animaux, par des plantes, suffit d'observer, et d'un autre côté, on ne peut pas juger sur le champ d'un phénomène qu'on appellerait scientifique. Les scientifiques disent, devant ce phénomène, écoutez, sauf les traces qui sont laissées par terre de brûlure, par exemple en Provence, en France, en Haute-Provence, où cette soucoupe s'était posée il y a des années, et depuis, c'était un champ de
lavande.
De lavande, et le cercle est resté impeccable, la lavande n'a jamais repoussé, il y a toujours le cercle. On peut encore le voir aujourd'hui. Bon, les gendarmes sont venus inspecter, ça ne change rien au problème, il y a un phénomène. Bon, mais scientifiques disent, on ne peut rien affirmer, évidemment.
Il semble ces ovnis, ces soucoupes volantes, être mues intelligemment. Il y a une intelligence derrière.
Bon, il y a une intelligence. Que ce soit téléguidé, disons, que ce soit mu à distance, que ce soit mu par la pensée, que ce soit mu par n'importe quoi, il y a une intelligence. Mais si on ne connaît pas la Kabbale, on ne sait pas qu'il y a une intelligence derrière tout. Pour nous, la création est intelligente. Qu'il y ait des erreurs, des malentendus, j'ai souvent dit, pour nous, kabbalistes, il y a un malentendu dans la création. Ben, c'est pas normal qu'il y ait le sida, c'est pas normal qu'il y ait la peste bubonique, c'est pas normal qu'il y ait une misère, la famine, enfin tout ce qu'on veut, si la création était parfaite. C'est pas pensable. Donc nous disons, nous, il y a un malentendu. Mais à partir de là, il faut savoir qu'il y a des lois. Parce qu'il y a une intelligence. Il y a une intelligence derrière. Je dis toujours, si je plante une graine de carotte, je suis sûr d'avoir une carotte. Je ne vais pas avoir un topinambour ou un rutabaga. Si je plante une bouture de bougainvilliers, je vais avoir des bougainvilliers. Je ne vais pas avoir des navets. Bon, ça veut dire qu'il y a une programmation. Il y a une programmation. Nous sommes programmés. L'homme est programmé, qu'il le veuille ou pas, sa taille. La couleur de ses yeux, son sexe, tout est programmé.
Bon. Même probablement la longévité de sa vie.
Ah ben absolument, on est remonté comme une pendule au départ, si vous me permettez l'expression, et le tic-tac va jusqu'au jour où elle s'arrête. Mmh. Alors il y a des gens qui se lamentent, mon Dieu, celui-là, celle-là s'est arrêtée à l'âge de 30 ans, celui-là à l'âge de 40, etc. Peu importe, ça fait partie d'autres choses dont on peut parler, mais disons la pendule est remontée pourtant. Il fallait quitter le plan terrestre à tel moment. Qui est le plus malheureux? On dit toujours c'est celui qui reste, parce que surtout ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas des notions kabbalistiques de base, et malheureusement très peu les ont. Ils ont des à peu près. Oui, ah, je sais, la Kabbale, je sais. Oui, je sais rien du tout. Les gens ne savent rien parce qu'ils ne connaissent pas ni l'hébreu ni l'araméen, donc ils n'ont pas un langage adéquat. Nous disons n'importe quoi.
Mais est-ce qu'en Kabbale, on parle des soucoupes volantes et des extraterrestres?
Évidemment. Alors, on en parle d'autant mieux que les gens s'en étaient même pas aperçus. C'est tellement clair. C'est la lettre volée des garçons sur la table. Mm-hmm. Elle est là, mais tellement là qu'on n'en parle pas. C'est tellement évident. Mais on ne la cherche pas où elle est. Vous avez dans le Zohar, le Sefer HaZohar, qui est le commentaire mystique de la Bible, vous avez, mais il faut le lire dans l'araméen. Même en traduction, tout de même, il y a le texte, puisque je l'ai donné dans les clés secrètes d'Israël, j'ai donné des extraits. J'ai donné des extraits du Zohar qui sont lisibles, je dirais comme ça, mais que les gens ne lisent pas. Et ce qui est plus grave, c'est que si dans le tome 1, vous savez, ça représente 3000 pages, hein, il faut le faire. Alors, vous avez un passage dans le tome 1, puis dans le tome 6, ou dans le tome 4, et les gens du tome 1 au tome 5, ils ont déjà oublié parce qu'ils ne savent pas lire, comme les gens ne savent pas écouter. Les gens entendent des mots, mais est-ce qu'ils écoutent vraiment? Ils disent « Ah, c'est intéressant, on est en train de parler de je ne sais quoi ». Ça rentre ici, ça sort là, mais ça reste pas fixé au troisième œil, si vous voulez.
Mais
là.
Je vais vous ramener sur le sujet, le phénomène extraterrestre.
Des extraterrestres.
Alors, dans Zohar, qu'est-ce qu'on en dit?
Oui, mais justement, il faut savoir écouter aussi, même ça. Il faut savoir écouter ce sujet. Si vous prenez le Zohar, vous apercevez qu'on parle d'une planète qu'on nomme, qu'on appelle la planète Arka. Bon, les gens vous disent, c'est curieux, personne ne parle de cette planète. Mais je vous dis, si, avez-vous lu la Bible? Tout le monde, mais bien sûr, qui n'a pas lu la Bible? Je dis, alors vous n'avez jamais lu Arka, vous voyez que vous n'avez pas lu. De la même manière que vous ne savez pas écouter, vous ne savez pas lire.
Oui, mais vous savez très bien, comme moi, à des grades, vous en avez déjà parlé dans les émissions, que la traduction dans Jérémie a été faussée.
Bon,
on a parlé de la terre au lieu de l'Arka.
Voilà, en particulier. Bon, donc c'est dans la Bible.
Oui, la planète Arca, dont on parle dans le livre de Jérémie, dans la Bible, sur laquelle vivraient des êtres humains très semblables à nous, les humains de la Terre. Les années, les moissons, la manière de vivre se rapprochent de celle des humains de la Terre. Et malheureusement, par la traduction, traduire c'est trahir, bien souvent, on l'a tout simplement appelée Terre. Après la pause, nous entendrons des témoignages dans des grades d'expériences personnelles vécues en relation avec le phénomène extraterrestre. De retour à l'émission Ésotérisme expérimental avec Adégrade, notre invité kabbaliste.
Peut-être vous ramener encore une fois sur le sujet du phénomène extraterrestre et peut-être dans votre cas personnel.
Oui.
Votre perception et aussi vos rapports avec le phénomène extraterrestre. Oui. On ne peut pas être kabbaliste sans connaître les mots de clé, les mots de passage, les mots de communication, si on veut.
Évidemment.
Vous vous souvenez de l'expérience que vous nous aviez contée de Tzedek?
Oui, évidemment, à Santiago de Chile.
Oui. Donc, vous êtes l'homme peut-être le mieux placé pour savoir comment entrer en contact. Et j'ai des amis qui vous ont connu et qui nous ont bien sûr rapporté le fait qu'avec AD, on avait vu des ovnis lorsqu'AD a levé les bras au ciel et a fait certaines incantations ou certains mots de...
Bon, vous savez, d'abord, il ne faut pas trop jouer à ce petit jeu-là de faire apparaître des ovnis. On peut. Tout est possible, hein, n'oubliez jamais ça, tout est possible. Faire apparaître les ovnis. D'un autre côté, à l'heure où nous parlons, là, en ce moment, on peut provoquer, supposer, un phénomène. Ce phénomène va impliquer des répercussions. Parce qu'on ne force pas d'abord le destin. Si vous faites intervenir, et vous pouvez, si vous faites intervenir sur le champ, quelque chose de ce que j'appellerais l'anti-univers. Vous allez secouer, c'est-à-dire vous allez dérégler une image. Par exemple, au cours de séances, puisque vous voulez cerner le sujet, je crois que c'était en Belgique particulièrement, au Grand Palais de Liège, il y a eu le problème où tout le monde a demandé est-ce qu'il est permis d'enregistrer. C'est une séance un peu spéciale. Ça se passait d'ailleurs dans la salle Volgograd. C'est très curieux. Bon, enfin, ce n'est pas moi qui ai choisi la salle. Hein. Ce sont les gens du Palais du Congrès. Eh bien, les gens ont demandé l'autorisation d'enregistrer ce soir au cas où des phénomènes... moi, je ne suis pas contre. Mais je ne vous dis pas qu'ailleurs, on ne soit pas contre. Et on s'est aperçu après qu'aucun magnétophone qui avait tourné n'avait enregistré quoi que ce soit. Bon, les photos, personne n'a pu prendre une photo ce soir-là. Les gens appuyaient sur les choses et tout, sûr d'avoir les photos. Il n'y avait rien. Vous ne suscitez pas impunément certaines choses. C'est-à-dire que le contact, oui, mais est-ce utile? Est-ce bénéfique? Ça, c'est autre chose, parce que vous ne savez pas, comme un médium, si vous voulez, pour les gens dans le spiritisme, un médium va capter de très bonnes choses. Vous allez dire, c'est fantastique, là, il n'y a pas de doute, c'est exactement bon. Et d'un seul coup, quelque chose va se glisser par le canal de ce médium, par le truchement de ce médium, va s'engouffrer, va profiter et va dire n'importe quoi. Donc, on va susciter quelque chose de dangereux aux répercussions, je dirais, néfastes. En croyant faire le bien, on fait le mal. On croit soigner quelqu'un, on le soigne d'un côté, mais on déclenche autre chose. Hein, c'est ce que fait en général la médecine.
Pour le public, est-ce que vous pouvez nous relater ce qui s'était produit dans cette salle? Puisqu'ici, au Québec, on n'était pas sûrement en Belgique pour voir ce qui s'était produit.
Oui, bien sûr. Non, je pense que c'est intéressant de le raconter. Disons que ce soir-là, où on parlait de certaines choses, à un moment donné, si vous voulez quelque chose de plus précis, parce qu'on n'a quand même pas le temps, c'est tout de même après, parce que j'ai entendu une bande après. Or, après, sur une bande, il y a un message. On dirait du Morse, je connais le Morse, puisque j'étais aviateur, j'étais observateur radio-météo, donc je connais le Morse. Et je peux vous dire que ce n'est pas vraiment du Morse, ça ressemble à du Morse, mais ça fait comme des étincelles. Si vous voulez, du Morse qui serait une suite d'étincelles. C'est-à-dire, vous entendez un cliquetis, tic, 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 il faut le déchiffrer. Mm-hmm. C'est peut-être déchiffrable. Moi, je ne l'ai pas déchiffré. Mais ça s'est répété sur la bande à certains moments. Et les gens n'ayant pas décroché, croyant enregistrer, ce cliquetis a continué sous une forme. Et le lendemain, une des personnes qui était parmi les organisateurs, chez qui je me trouvais, a remis la bande pour que j'entende. Entre-temps, il y a eu autre chose sur la bande. Alors, ces choses, bon, on croit ou on ne croit pas. Ça, c'est pas un problème. On ne cherche pas à convaincre. Dans la vie, non, on ne convainc personne, vous le savez très bien. Ce phénomène, si vous voulez, extraterrestre, pour nous, il est évident. Il est évident, puisque nous savons que nous sommes tous issus d'extraterrestres. La Bible vous dit que nous sommes la résultante des tombées du ciel qui se sont mêlées aux filles des hommes. Tout le monde le sait, tout le monde a lu au moins ça. Or, nous savons qu'à partir de là, une race s'est instituée, comme si nous, demain, on va coloniser Mars ou je ne sais quelle planète, et nous allons opérer la même histoire qui s'est passée pour la Terre. Alors, on ne fait que déplacer le problème, puisque d'une planète, on passe à une autre, on recule. Mais ce qui est important, c'est de savoir que il est possible de reconnaître l'existence d'un anti-univers, par exemple, d'où surgiraient des vaisseaux, si vous voulez, mais des ondes qui transporteraient quelque chose que nous pouvons matérialiser ici même à la condition de le neutraliser, et c'est là le problème, c'est pour ça qu'on ne pourra pas faire ça là. Si vous voulez faire sortir au bord de l'horizon, j'appelle horizon ce qu'on appelle l'horizon d'un trou noir, par exemple. Au bord de l'horizon d'un anti-univers, vous faites apparaître un phénomène, automatiquement, il faut qu'ici, il y ait la réciproque. Parce que ce qui est positif ici, dans un électron ou ce que vous voulez, est forcément négatif de l'autre côté, sinon ça ne peut pas exister. Il faut que ce soit, je dirais, deux pôles contraires.
Mais au-delà de l'univers positif et l'univers négatif ou l'anti-univers, oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas des extraterrestres qui viennent du même univers que nous?
Bon, alors ça, c'est à
l'intérieur. Il y a des kidnappings qui sont faits, des enlèvements.
Bon, alors là, vous parlez, je dirais que vous rétrécissez là le problème. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est moins, si vous voulez, les contacts avec les gens de la galaxie que de cet anti-univers avec lequel nous sommes, que nous le voulions ou pas. Mais en général, les gens ne sont pas conscients d'être en contact avec eux-mêmes. C'est pourquoi les gens se cherchent. Ils ne se trouvent pas, ils ne peuvent pas se trouver. Ils savent pas qu'une partie d'eux-mêmes est ailleurs. Alors, ça, c'est le grand problème. Mais c'est vrai que pour ce qui est des contacts intergalactiques, mais ça, c'est élémentaire, mon cher Watson dirait l'autre, c'est très élémentaire parce que nous faisons la même chose, en vérité. La seule, si vous voulez, la seule vérification que nous n'avons pas, c'est, et encore, on commence tout de même, il y a quand même des scientifiques qui travaillent là-dessus. Quand je dis scientifiques, je parle des gens qui travaillent en laboratoire, des mathématiciens de renom qui sont en pleine physique théorique, ou etc. Je parle de ces gens-là. Donc, ça, c'est rien. C'est dans les années qui viennent, dans les années à venir. C'est très court. Et ça fait partie aussi des signes des temps. C'est l'ère du Verseau, etc. On a un pied dedans, la conquête de l'espace. Tout ça est tellement, je dirais, visible à l'œil nu qu'on n'en parle même plus. Donc le contact, si vous voulez, intergalactique, bien sûr, ça peut être, je dirais, une preuve supplémentaire pour les éternels sceptiques. Enfin, les gens qui, jusqu'à aujourd'hui, nient des faits, des évidences. Mais non, si c'était, on le saurait. Bon, alors, pour ces gens-là, c'est important d'avoir des communications intergalactiques. Et que, enfin, quelqu'un vienne leur donner une leçon. Mais eux ne tiennent pas à donner des leçons. Moi, le premier ici, pourquoi vous, je donne une leçon de cabale? À qui? Pourquoi? Eh pas, nous ne faisons pas. Comme j'ai dit mille fois, nous ne recrutons pas. Nous serions, si les cabalistes recrutaient, ils vont donner des leçons. Mais nous ne recrutons pas, nous repoussons avec un roseau, c'est notre formule. Donc, il n'y a pas d'intérêt, je dirais. Le mot intérêt est un mot que nous ne connaissons pas. Mais, ou, du point de vue scientifique, ça peut être intéressant, si on veut prendre ce mot quand même, c'est que nous sommes à même de leur donner des petits éléments. Nous avons une grille, en cabale, qui permet de tout décrypter. Alors, le contact avec les extraterrestres va se faire par quoi? Par le langage, ou par la télépathie, peut-être pas, ou par la télépathie, je crois que c'est quand même admis que ça existe, on l'utilise dans l'armée, je crois, américaine, on l'utilise chez les soviétiques, etc. Ou par télépathie, ou par langage articulé. Quel langage? Le langage supraplanétaire, le seul, c'est l'hébreu. On ne peut pas sortir de là, ni le chinois, ni le sanskrit ne vous permet de parler à un extraterrestre, puisque c'est le mot que vous avez utilisé, qui ne connaîtrait pas les langues profanes qu'on utilise à la surface de la Terre. c'est la possibilité de contact. C'est la possibilité, mais vous, c'est effectif.
Vous, personnellement, avez-vous eu déjà des rapports avec ces extraterrestres qui parlent l'hébreu?
Disons que c'est eux qui ont des rapports avec moi, parce que moi, je ne cherche personne. Moi, je cours le monde, c'est vrai, mais je ne cherche pas, on m'appelle. Et pas si on m'appelle, je viens, si on ne m'appelle pas, je ne bouge pas.
Mais
si
les vous avez des relations avec ces êtres?
On en a tous, vous savez, mais certains ne le voient pas. Attention, ne pas confondre un extraterrestre avec un ange gardien, ou ce qu'on appelle un esprit protecteur, ou selon les religions ou les croyances. C'est quand même, disons, des êtres d'ailleurs, ce qu'on appelle, si vous voulez, en kabbale, l'Israël céleste. Voilà. Bon, alors ça, c'est évident. Israël en a des témoignages à longueur, je n'ose pas dire de journée, mais presque. C'est le phénomène qu'on appelle sur Terre le miracle. Pour certains, c'est miraculeux. Pas pour les kabbalistes, parce que pour nous, le miracle n'existe pas. Il fait partie de la nature. C'est pourquoi, quand vous avez parlé au début de réalité, le miracle, pour nous, est inclus dans la réalité. Ce que les gens appellent le miracle. Mm-hmm. Pour nous, il n'y a pas de miracle. Ce qui est miraculeux, c'est de pouvoir articuler des mots. C'est d'avoir des milliards de neurones interconnectés dans le cerveau. C'est quelque chose, la structure de l'œil. Mais c'est un miracle pire que tous les autres miracles. Les gens sont étonnés que, une entité intergalactique puisse franchir à la vitesse de la lumière, peut-être démultipliée, venir nous contacter. Mais je dis, mais vous avez des miracles en vous-même. Le don de la parole, de la naissance de l'être humain, d'une fleur, une herbe, la moindre herbe est un miracle. Il suffit de la regarder croître. Et pour les gens qui vivent encore près de la nature, mais il n'y en a pas tellement. C'est un miracle.
Au retour de la pause, je demande à Adegrad s'il voit une relation entre les extraterrestres et les humains, la politique sur Terre. Nous sommes de retour à l'émission Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Notre invité, Adegrad, kabbaliste juif.
J'en arrive à une relation entre le monde de la Jérusalem céleste ou de l'Israël céleste et la politique mondiale actuelle.
Oui.
Est-ce qu'elle n'est pas toujours sous surveillance, cette politique des hommes? Par ces êtres de l'espace?
Et le mot surveillance ne me plaît pas beaucoup, parce que ces entités, si vous voulez, qui sont au-dessus, c'est pas seulement qu'elles surveillent, elles sont impliquées. Attention! Ne croyez pas que d'en haut, on dit voilà ce qui se passe en bas, mais la loi du Kybalion, en haut comme en bas, c'est valable ici aussi. Ces entités ne sont pas libres. Elles ne sont pas autonomes, elles sont en contact, si vous voulez, avec notre planète et avec d'autres. Je vous rassure tout de suite, on n'est pas une exclusivité dans l'univers. Il y a des milliards de planètes comme la nôtre, dans des milliards de galaxies. Je ne vais pas vous faire un cours ici, vous le savez très bien. Donc, il faut avoir conscience de ça en permanence, que ces êtres, parfois, n'en savent pas beaucoup plus que les êtres qu'ils sont censés surveiller, comme vous avez dit, mais entre guillemets, comme on dit ici, il ne faut pas que ces êtres soient considérés comme des êtres, je dirais presque supérieurs. Ils sont sur un autre plan, mais ils sont impliqués dans le combat terrestre. C'est-à-dire que pendant la dernière guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale que j'ai faite moi personnellement, il était évident que les forces d'en haut bataillaient entre elles comme celles d'en bas. C'est-à-dire qu'en bas, les combats dans les airs ou sur mer ou sur terre avaient leur équivalence de l'autre côté. Les combats, c'est ce qu'on appelle dans certaines traditions les êtres de lumière contre les forces du mal. Mais oui, alors ces gens-là sont impliqués. La lutte en bas, vous avez la Chine aujourd'hui. Bon, des événements de Chine à 1 milliard de Chinois, ça compte. Tout de même sur la planète, sur 4 milliards et quelques d'habitants, 1 milliard, ça fait du bruit. tout ce continent que représente la Chine, et encore je ne parle pas du reste qui suit dans le prolongement, mais on prend ce fait précis puisqu'il est dans l'actualité. Là-haut, vous avez une espèce de Chine supraterrestre, si vous voulez, où il se passe des événements comme là. Mais le temps que ça se décante, ça ne peut pas se faire en 24 heures. La nature, elle, ne fait pas de sauts, les hommes non plus. On fait des sauts de puces avec des avions, on va très vite avec le Concorde, on bat des records de vitesse, de traversée d'Atlantique et tout. Ça ne change rien à l'évolution lente des gens qui sont sous emprise. Il y a une force du mal sur l'Est. On disait la lumière vient de l'Est, n'est-ce pas, hein, dans toutes les traditions. Enfin, si, moi qui vis aux Antilles, je peux vous dire que la lumière, maintenant, vient de l'Ouest. Le soleil se lève à l'Ouest, je vous dis le contre-vérité, mais j'ai des preuves, si vous voulez. C'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis fixé là et non plus en Europe, qui est un promontoire de l'Asie, voyez-vous, tout en étant européen de naissance, bien sûr, étant de Paris. Alors, si on veut limiter les choses, ne pas prendre les gens d'en haut pour des surveillants. Ce sont des surveillants, si vous voulez, qui seraient mêlés à notre action. Ils sont à la fois surveillants, mais ils font des études en même temps. Vous voyez, ils sont eux-mêmes soumis, parce qu'eux aussi évoluent. Il ne faut pas prendre ces gens-là pour des êtres qui sont immuables et qui sont toujours dans le même état. Nous évoluons. L'homme qui vous parle aujourd'hui, septuagénaire avancé, n'est forcément pas le gamin qui faisait ceci ou cela, bien que déjà branché sur certaines choses bizarres, que les gens trouvaient bizarres.
Y a-t-il comme ça des alliances entre certains peuples d'en haut et des peuples d'ici?
Absolument.
Et alors pourquoi y aurait-il eu ce massacre des Juifs par Hitler? Est-ce qu'en haut, on n'était pas assez fort pour pouvoir venir aider ceux qui ont été exterminés en grande quantité?
Oui, ça c'est évidemment le grand problème. L'Israël céleste est un Israël pacifique. C'est un Israël agneau. Or, il se trouve que le siècle où nous vivons, je peux dire, puisqu'on est quand même dedans, je ne veux pas dire le cycle, parce que le cycle est varié, mais depuis le passage de l'agneau qui a été immolé, eh ben, on s'est aperçu que ce n'est pas des agneaux qui devaient s'occuper des autres agneaux. Il fallait donc des lions. Et je sais que dans la science-fiction, on a utilisé cette idée, qui est une idée kabbalistique, dont j'ai eu confirmation, parce que moi je ne suis pas tellement au courant de ces questions de science-fiction, mais ça recoupait tellement, c'était tellement flagrant, cette histoire de Hitler, qui était menée, disons, sur un plan visible pour les hommes à la surface de la planète, était aussi menée chez les Hitlériens, sur le plan planétaire, avec les mêmes éléments. C'est-à-dire que là-haut, il y a eu, si vous voulez, aussi une déception. Il faut dire qu'il y a une déception aussi en bas. Mais la déception était grande là-haut, parce que les Hitlériens, ce qu'on appelait le groupe Thulé, ce qu'on appelait l'ordre noir, si vous voulez, des SS, l'ordre secret, hein, le nom visible, celui de Heinrich Himmler, avaient des connaissances kabbalistiques et étaient arrivés à décrypter dans le Zohar un phénomène qui devait se produire avec la venue de ce qu'on appelle les temps messianiques. Donc le Messie devait naître dans les 70 ans à venir, et le Messie, qui devait être un mathématicien du sacré, donc un kabbaliste, se trouvait impliqué dans cette génération qui était là, et comme les calculs de ces gens étaient fondés, vous savez qu'Eichmann lisait l'hébreu, il a vécu en Égypte, vous savez que Hess, d'ailleurs ils ont tous des noms hébreux. Ils ont les mêmes noms que les Hébreux, remarquez bien. Donc il y a quelque chose qui va très loin, qui est très grave et qui mérite d'être exposé autrement. Mais je crois que les temps sont très proches où on va pouvoir donner ça un plus en clair, peut-être. Ce n'est plus très loin. Mais personne ne peut comprendre ce qui s'est passé là si on ne sait pas que ces gens-là faisaient de la Kabbale, et c'était la raison pour laquelle, jusqu'en 1948, il était interdit, je dirais même, de parler Kabbale comme nous en parlons là, en donnant un petit peu plus de détails, et de publier des livres sur le sujet. Or, j'en ai publié 23 jusqu'à maintenant, c'est donc il y a une raison, il n'y en avait pas avant. Ce phénomène que les gens ne s'expliquaient pas, ni les Hébreux ni les autres, parce que vous dites juif, vous vous trompez en employant ce terme, il faut dire hébreu. Eh ben, il faut dire hébreu, pourquoi? Parce que le peuple est le peuple hébreu. La langue des juifs, si vous dites entre guillemets, est la langue des hébreux. C'est la langue hébraïque.
Juif, c'est une religion?
Non, juif, c'est un mot qu'ont donné les peuples alentours aux habitants de la Judée. C'est-à-dire que les habitants du royaume de Yehuda, qui est le royaume de Juda, on les appelait les Judéens. Et les gens ont dit en français, par exemple, Judéens, ah, les Juifs. Bon. Les Allemands ont dit Jude, des Soslis. Mais en Russie, on dit Hébreu. On dit Ivrite, ce qui n'est pas du tout le même mot. En Italie, on dit Hébreu. Ils ne connaissent pas ce mot de Juif. Parce que Juif, ça veut dire habitant de la Judée. Alors, il y a des gens, on m'a dit, mais il y a des Juifs, par exemple, ici à Montréal. Il y a des Juifs à Montréal et des habitants de la Judée qui vivent à Montréal. Mm-hmm. Et non, ce sont des Hébreux. Ce sont des enfants d'Israël qui vivent ici. Mais ce générique, ce nom générique, a couvert toute la lignée. Ce qui ne veut rien dire. Mais ce qui est important, c'est de savoir hébreu. Pourquoi ? Parce que la langue des Hébreux, c'est l'hébreu. C'est pas le Juif. Vous n'avez jamais entendu un Juif parler Juif, si vous voulez. Bon, il parle hébreu. S'il parle hébreu, bien sûr, parce que beaucoup ne parlent pas. Sur l'autre plan, importance de cette langue, puisque c'est une langue supraplanétaire, qui est fondée en géométrie, en arithmétique, je crois qu'on en a assez parlé ici. Donc, cette langue étant supraplanétaire, permet d'exprimer l'inexprimable.
Alors, si on joue sur les termes des mots des peuples, comment se fait-il que la terre promise pour les Juifs, c'était la terre de Canaan, que finalement, au lieu d'appeler ça la Judée aujourd'hui, ils appellent ça la terre d'Israël?
Oui, mais oui.
Et on joue sur des termes pour un même territoire, dans le fond.
Non, c'est le terme initial. C'est le terme déjà. Attention, à l'époque, c'était le pays de Canaan. D'ailleurs, la langue hébraïque est Sephat Canaan, c'est-à-dire la langue de Canaan. Or, la langue de Canaan n'est pas l'hébreu, évident. Ce peuple à qui Moïse l'a dit, voilà, c'est là que ça se passe, c'est ça, c'est cette partie-là et celle-là seule, bon, a été désigné comme la terre du peuple qui venait de se constituer en tant que peuple en Égypte. Car les Hébreux qui sont entrés en terre canadienne venaient d'où ? Venaient d'Égypte. Mais ces Hébreux d'Égypte venaient, eux, déjà de Mésopotamie. Ils venaient de l'autre côté du fleuve, de l'Euphrate. Et quand on vous dit « ils venaient Be'ever Anahar », le mot « Be'ever » veut dire « ils venaient par-dessus le fleuve ». Ils venaient de l'autre côté du fleuve, d'où l'anglais « over », l'allemand « über » vient de l'hébreu « ever », qui a donné le mot « ibri ». Les gens disaient « c'est les évers, c'est les ivrim ». Ce sont les Hébreux. C'est là que vient le mot hébreu. Voilà. C'est pour ça que le mot juif ne veut rien dire. Le mot hébreu passe de Mésopotamie. C'est un clan acadien, hein, que les gens ne savent pas toujours. On croit que tout le monde connaît ces choses élémentaires, mais j'ai remarqué en courant le monde que selon les latitudes, on ne sait pas. Le peuple hébreu sort d'un clan acadien. Akkad, à ne pas confondre avec l'Acadie, hein, sous ces latitudes. Il venait d'Akkad. Le peuple d'Akkad entre à Sumer, bat les Sumériens, qui avaient leur propre petite civilisation. Qui
vont Mais avant, Akkad, d'où venait-il ?
Alors là, il y a le problème de l'origine, parce que c'est ça où on peut cerner le sujet et faire intervenir vos extraterrestres. C'est qu'au moment où ce clan arabéen, attention, on dit bien, hein, dans toute l'histoire officielle, les plus grands savants, les plus grands linguistes, c'est pas une affaire de kabbalistes seulement, eux-mêmes, nous sommes des linguistes, mais en plus, je parle des gens qui ne font que ça, savent que c'est un clan araméen qui est sorti de là, donc il y avait en langage populaire l'araméen. L'araméen était composé de lettres qui sont les lettres de l'alphabet hébreu d'aujourd'hui, et parmi eux, l'élite, celle qui avait le monopole de la connaissance, parlait hébreu, c'est-à-dire un araméen châtier, si vous voulez. Hein, comme qui dirait le français et un patois français. Voilà, bon, c'est la différence entre les deux. Le peuple parlait cette langue, mais justement, d'où venait cette langue, puisque tout l'environnement n'avait pas ça. Les Sumériens avaient des milliers de signes qu'on avait réduits après à 1 900 000, etc. Bon, après 300, parce qu'ils en pouvaient plus. Les Égyptiens avaient des milliers de hiéroglyphes, c'est bien connu. Et voilà ces gens qui subitement arrivent avec un langage supraplanétaire. Où ils allaient, on utilisait leur langage. Vous ne savez pas que pendant 800 ans minimum, je dis minimum, tout le Moyen-Orient avait pour langue diplomatique dans les échanges commerciaux et diplomatiques l'araméen. C'est la langue de tous les peuples et qu'on parle encore aujourd'hui en Union soviétique, dans le sud de l'Union soviétique et dans le nord de la Syrie. On parle encore l'araméen et pas les Hébreux. Il y a des Hébreux qui n'ont pas un seul mot d'araméen. Sauf le Kaddish est araméen, donc ils l'entendent là. Mais disons, ils ne connaissent pas la langue araméenne. Or, l'araméen était la langue diplomatique de tout le Moyen-Orient. Vous l'avez depuis l'époque de Jacob, c'est-à-dire 1800 ans avant la venue de l'ère chrétienne, 1800 ans avant, et ça déborde encore, je ne sais pas, moi, peut-être 6 à 8 siècles, peut-être jusqu'à la fondation de Bagdad.
Je reviens un peu en arrière sur notre entretien à Degrad pour vous rappeler quand on a dit qu'il y a des peuples sur la Terre qui ont des alliances avec des peuples célestes.
Oui.
Bon, dans le futur, est-ce qu'il risque encore d'y avoir un autre antéchrist ou antichrist qui va vouloir arranger les choses à la sauce hébraïque pour que ça fasse venir un nouveau Messie pour encore créer un tumulte sur la Terre sous prétexte que c'est l'arrivée du Messie?
Vous savez, le Messie viendra un jour trop tard. Je suis très pessimiste en vous disant ça, mais je suis réaliste. J'ai les pieds par terre, contrairement à ce que tout le monde suppose. Nous avons les pieds par terre en cabale. Le Messie viendra un jour trop tard. Il est déjà venu un jour trop tard. Et quand je dis un jour, vous comprenez ce que j'entends par un jour. Il vient trop tard. Le cycle qui s'achève, dans lequel nous sommes tous engagés, les signes sont tellement, je dirais, évidents. Les événements politiques à la surface de la Terre, l'Iran, la Chine, tout ce que vous... ou même en Union soviétique, ça prend dans le manche, comme on dit. Tous ces signes avant-coureurs que les gens ne mettent pas, il suffit de faire une projection plane sur une carte et on se rend compte déjà ça. Les maladies du siècle, du cancer au sida, de toutes ces choses, bon. Quand le mal est fait, il n'est pas récupérable. L'homme est devenu fou, il était foudroyé pour des raisons qui nous échappent peut-être, mais on pourra en parler, mais on ferait de la haute métaphysique. L'homme se suicide. L'homme se suicide. La forêt amazonienne, vous le savez, vous êtes au courant. Partout, c'est terrible. En Guadeloupe, à Islande, il y a des poissons qu'on ne peut pas manger en ce moment-là. Les gens s'empoisonnent avec. Bon, j'ai la chance, moi, où je suis, dans mon Antille, ou encore... Il n'y a aucune pollution. Donc, on peut manger tous les poissons qui sont là, tous sans exception.
Ne le dites pas trop fort.
Je ne pas
trop,
tout le monde va venir.
Oui,
il va venir, mais avec joie. Mon cœur est grand, moi je viens accueillir tout le monde. Mais il y a un problème. Il y a un problème, ce signe de fin des temps, c'est plus le Messie maintenant qu'il faut attendre. C'est le sauf qui peut. Le sauf qui peut est lié justement à la conquête de l'espace. Vous pensez bien que c'est tout de même pas gratuit qu'on est en train de chercher par là ce qui se passe. Ça coûte des milliards et des milliards. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent de faim, vous le savez.
Oui, mais attendez, il y a des grades. Vous attendez pas quand même que l'être humain, comme une puce, saute sur une planète qui est vraiment pas, qui est hostile, qui est pas faite comme la Terre. Et pourquoi ce ne serait pas plus simple l'intervention de ces êtres célestes qui
faire.
Ont des amis ici?
Ils ne peuvent rien faire. Vous attachez encore trop d'importance à la toute-puissance des êtres venus d'ailleurs. Eux aussi sont pris dans le tourbillon, mais dans un autre tourbillon. Au lieu que ce soit la pollution, c'est une autre forme. D'abord, ils sont très déçus de ce qui se passe, si vous voulez, sur la planète Terre. Supposez que nos enfants, vos enfants, soient des lunaires demain, soient sur la Lune. Vous serez tout de même déçus d'apprendre qu'on y vit très mal, que d'un seul coup, c'est la sauvagerie, c'est la barbarie qui est revenue. On est revenu au temps barbare. On parle du Moyen-Âge, mais parler depuis 1933, de ce qui s'est passé en Europe, c'est le haut Moyen-Âge qui est revenu. Alors, il faut voir les choses avec réalisme. Il ne faut pas attendre le salut ni de la réincarnation de Pierre ou de Paul ou de Jacques. C'est pas là qu'est le problème. Le problème, il est là dans le sauvetage de l'humanité. L'humanité ne peut se sauver que par le haut. Or, le haut, c'est la spiritualité. Si l'humanité renonce à la spiritualité, et pour l'instant, on assiste quand même à une espèce de résurrection dans ce domaine, et c'est pour ça qu'il y a ce que j'appellerais des faux maîtres ou des faux prophètes qui se lèvent un peu partout, parce que d'un seul coup, ça foisonne. C'est pas ça qui est important, qu'eux soient dupes de bonne foi. Ah, ils sont sûrement, eux, de bonne foi, ils se prennent pour le Messie. C'est un autre problème, c'est leur problème. Mais ce qui est grave, c'est que, pour nous, intéressant, c'est qu'une majorité de gens est affamée de spiritualité. Une majorité de gens, moi je cours le monde, de l'Australie au Mexique, je vais partout, je peux vous dire que partout les publics sont les mêmes et nous disent comment sortir de notre condition humaine en atteignant des plans supérieurs de conscience. Tant que l'homme restera enlisé là-bas, les pieds dans la boue, c'est pas la peine qu'il espère que quelqu'un vienne le sauver. Faut pas attendre des autres le sauvetage, faut se sauver soi-même.
Mais c'est ça l'arrivée du Messie, ce sera justement l'être qui réalisera en lui-même
mais qui ne vient...
les forces de lumière.
Attention, oui. Je crains encore la confusion.
Oui.
Il ne va pas venir sauver les autres en tant que sauveur, c'est-à-dire il ne va pas mourir pour nous. Cette fois-ci, il va vivre. Mais dans notre tradition kabbalistique, il est dit que le Messie ne sera pas un être tellement recommandable. C'est-à-dire, ça ne sera pas le plus saint des saints. On dit même, méfiez-vous, c'est peut-être un drôle d'oiseau, celui qui doit venir. Donc là, il y a un problème, si vous voulez, je dirais, de prise de conscience face à la réalité. Je sais que je vais choquer bien des gens en disant ça. Je ne veux froisser aucune susceptibilité, vous me connaissez depuis des années. Donc je ne veux froisser personne, mais je veux dire ce qui est. L'homme ne se sauvera que par lui-même. Il y a 2000 ans qu'on croyait avoir sauvé l'homme, qu'on était mort pour lui. Or, il y a eu des guerres de plus en plus et... c'est pas possible, c'est pas le règne de l'agneau, donc l'homme sait bien que pour être sauvé, le meilleur des sauveurs ne peut pas faire le chemin à la place. Comme dit le Bouddha, moi je vous indique le chemin, c'est à vous de le suivre. Si vous voulez pas le suivre, ça c'est plus mon problème. Le Bouddha s'efface et s'en va. Vous voulez atteindre l'état de bouddhéité, vous êtes déjà un bodhisattva. Par exemple, vous voyez qu'on parle d'autre chose, de bouddhisme. Hein. Bon, c'est l'homme qui va s'éveiller. Bon, un éveil ou essayer d'éveiller.
Parce qu'on dit qu'on n'amène pas un cheval boire s'il n'a pas soif. Et vous nous dites que dans tous vos publics, vous vous rendez compte que le peuple, les gens ont soif.
Absolument.
Enfin, ils vont boire.
Voilà.
On ne pouvait pas les faire boire avant.
Je dirais.
Donc on arrive au temps messianique grâce à ça.
Absolument. Et je dirais qu'il y a un mépris de la masse qui est ridicule. Parce que la masse est beaucoup plus intelligente que les gens qui l'amènent. Hein, et je parle pas seulement des politiques, je parle aussi des spirituels. Les gens sont beaucoup plus éveillés qu'on ne croit, ils savent ce qui est vrai, et ils savent séparer le bon grain de l'ivraie. La masse n'est jamais dupe. La masse, c'est celui qui parle avec son cœur. Celui qui raconte des salades et qui ne parle pas avec son cœur, la masse le distingue immédiatement. Même sans lire les auras, sans voir le ceci et le cela. Hein. Une masse qu'on dirait non préparée, croyez-moi, j'ai l'habitude, je sais ce que c'est qu'une foule. Je vous assure que les masses doivent être prises plus en considération par les gens qui en sont responsables. Hein. Je parle des politiciens, des ceci, ça. La masse n'est pas si amorphe qu'on ne croit. Elle est très intelligente, mais on est vite. Qu'elle accède à des états supérieurs de conscience. La masse ne demande que ça. Amenez-nous l'enseignement, prodiguez-le-nous. Mais si vous venez avec ça, dans les sphères, disons, plus ou moins officielles, on dira, oui, mais mettez des bémols, hein, arrondissez les angles. Vous savez, ces gens-là vont être surpris. Brutalement, vous allez les choquer. Mais non, la vérité n'est pas, ne choque pas. Et je vous rappelle toujours cette phrase que je répète à chaque fois. Quelle dose de vérité supportez-vous? Voilà la question. Vous savez ce que disent les orientaux? Ce n'est pas le cerveau de l'homme qui le trompe, n'est-ce pas? C'est... après avoir filtré ce qui vient du cœur qui était sain et bon, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur et au-dessus. Le cœur, lui, il parle vrai, mais c'est après, dans les complications des neurones du cerveau, que tout devient faux. Tant qu'on parle avec le cœur et direct au cœur, alors vous frappez juste. Mais si vous parlez au cerveau, alors vous parlez quark, vous parlez neutron, neutrino, positron.
Soupe volante, extraterrestre.
Non, attention, elle a mêlé peut-être pas, parce même que là, pas, ouais. Là, c'est quand même la science que je suis en train de mettre sur la sellette, si vous voulez.
Évidemment,
oui. Et le reste, disons que la science, quoique des scientifiques savent très bien que il existe non seulement des possibilités, mais je crois que même des scientifiques... je suis sûr. Les scientifiques sont témoins de faits qu'ils ne peuvent pas rapporter. Moi, j'ai été très étonné tout récemment, une émission de télévision en France, J'étais là et une personne, je nommerai pas parce que je l'estime beaucoup et moi je ne dis de mal de personne, on peut dire du mal de moi, ça me gêne pas, mais moi j'ai du mal de personne, cette personne était là, a déçu tout le monde parce que nous savons que cette personne connaît des choses scientifiques et officiellement devant la caméra a nié ces choses. Les années, comme si, non, on ne parlait pas de sornettes, voilà. Alors, il faut savoir si on cherche la vérité ou pas. Ou nous sommes des chercheurs de vérité, ou nous nous mettons la tête, comme l'autruche, dans le sable.
Adégrade, il nous reste à peine 2 minutes et demie. J'aimerais vous demander, mais est-ce que vous êtes quand même optimiste ou vous êtes vraiment pessimiste et l'humanité se suicide et Adégrade va se suicider ou quoi?
Non, j'ai pas une tête à me suicider, non, je rajeunis de jour en jour, je me sens 18 ans en ce moment. Non, non, pas question d'être pessimiste, je dis réaliste. Ce n'est pas en niant l'évidence, les gens qui ont nié l'hitlérisme, avec tout ce qui s'annonçait derrière, ne l'ont pas évité. Au contraire, il fallait savoir. Si vous savez qu'il va se passer un cyclone, qu'un cyclone va tout... Vous avez le temps peut-être de fermer vos volets, de vous murer, de prendre des précautions, etc. Si vous
ne savez pas... Alors, que faut-il faire maintenant?
Écoutez, moi je dis de suivre une voie de lumière. Tout être qui veut suivre une voie de lumière, celui qui dit « je verrai bien ce qui se passera ». Bon, ben, il verra ce qu'a vu l'Europe en 1940. Suivre une voie de lumière, quelle qu'elle soit. J'ai déjà dit 1000 fois, je ne plaide pas pour une paroisse, je n'ai pas de paroisse. Toutes les voies mènent au même centre, à la condition que ce soit des voies authentiques de lumière. Plus nous nous approchons de ce centre, tous ensemble, nous nous donnons la main, puisque nous nous rapprochons du centre, au lieu de nous éloigner de la roue, de la circonférence, nous sommes obligés de nous donner la main, nous sommes déjà côte à côte. En nous donnant tous la main, nous devenons tous lumineux, nous devenons des êtres de lumière. Il ne peut plus se passer des choses sombres dans un royaume de lumière. Mais dans un royaume de ténèbres, tout est possible, c'est pour ça que je suis pessimiste. Mais où je suis optimiste, c'est plus les gens étudieront ces ouvrages, ces questions, assisteront à des conférences qui concernent ces sujets.
Et vous faites confiance?
Absolument. Ben, si je ne faisais pas confiance, je ne serais pas là en ce moment et je ne vivrais pas dans la joie. Vous savez, il faut surtout que... Vous avez parlé de mon pessimisme à un moment donné. Mais attention, je vis dans la joie. Parce que mon réalisme fait que je suis un être de lumière, si vous voulez, à mon niveau à moi, et que cette lumière implique la joie. Moi, je ne rentre pas dans un temple, quel qu'il soit, absolument accablé par l'immensité céleste. Absolument pas, il n'y a pas de raison. Je crois rayonner suffisamment de par moi-même, avec mon cœur, en me disant... on suppléera bien à mon manque de foi ou d'intelligence, ou ce que vous voulez. Moi, ça ne me gêne pas. Mais je vis dans la joie. Je suis amoureux. Vous pouvez m'annoncer la piège. Vous me dites, mais en ce moment, il y a quelqu'un qui se... Je sais. Et je sais que ça va jusque-là. Et que moi-même, ça sera mon tour de ceci et ça. Mais ça n'implique pas l'absence de joie. Si les gens atteignaient un degré supérieur de conscience, à chaque moment, ils vivraient... Il y a des gens qui accompagnent les mourants, vous le savez bien, ça se fait de plus en plus, en beaucoup d'endroits. Eh bien, c'est une manière de leur prodiguer de la joie au moment où ils vont quitter, parce qu'il ne faut pas passer sur un autre plan accablé. Le mourant qui s'en va accablé, il reste accablé, il part avec toutes ces subtiles ondes qui sont diffuses. Si elles sont teintées d'obscurité, de tristesse, mais il part avec ça, et ce bagage, après, faut l'éliminer, faut le décrasser, il faut partir dans la joie. Et pas, écoutez le Requiem de Mozart. Voilà un truc, alors je crois que c'est le plus bel exemple qui me vient à l'esprit à l'instant. Le Requiem de Mozart, c'est un hymne à la joie, avant celui de Beethoven. Écoutez le Requiem de Mozart, les chœurs, c'est quand même formidable. C'est un hymne à la joie. Et ça savait, il n'a pas terminé, il allait mourir dans les semaines qui suivaient. C'est Schikaneder qui a terminé le Requiem. Mais c'est fantastique. Voilà, je cherchais un exemple, voilà avec la musique. Le Requiem de Mozart. Soyons tous en état de Requiem de Mozart et pas de reposer en paix dans la joie. Pas la joie, cette joie que n'a pas connue Mozart sur la terre. Mais faites-moi confiance, il y avait autre chose, et de l'autre côté, vive Mozart, hein, et vive Mozart ici-bas.
Shalom, merci.
Shalom, la paix soit avec vous.
Ce fut mon dernier entretien avec Adégrade au Québec. Il est sans doute décédé dans les îles des Antilles, comme il le souhaitait lui-même. Et nous aurons l'occasion de le réentendre ici dans cette émission, puisque nous avons fait plusieurs entretiens, conférences avec Adégrade lors de ses nombreux passages au Québec dans les années 80. Son enseignement est toujours de très haut niveau et encore d'actualité, bien évidemment. Je vous invite à nous retrouver sur Internet, sur le site Ésotérisme Expérimental. Et tous les samedis soirs, de 20h à 21h30, notre rendez-vous sur le réseau YouTube au canal Orandia TV, O-R-A-N-D-I-A TV. C'est en direct avec possibilité de ligne ouverte. À la semaine prochaine.